Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Émission en jazz sur les ondes de Boulevard 102, midi 39 exactement. Je vous rappelle notre prochaine demi-heure. Pierre Graff, analyste économique avec nous pour parler du Forum économique de Davos. Mathias Turcotte qui va nous appeler en direct d'un gros point de presse sur des annonces importantes en logement à Québec. Et Roger Ferland pour parler de ses arrestations autant du côté de Blood Family Mafia que des Hells Angels. Je me corrige, le moins 48 refroidissement éolien, guys, pour aujourd'hui. C'est samedi. Samedi dans la nuit, il va faire moins 48. Il va annoncer moins 18 ensoleillé également pour samedi dans la journée. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est moins 9 possibilités d'averses de neige. Il y a de la neige qui tombe sur Québec. Demain, moins 3 averses de neige parfois fortes. Et également pour vendredi, c'est moins 12 alternances de soleil et nuages. Pierre Graff, analyste économique, est avec nous en studio. Pierre, comment vas-tu?
Très bien. Bonjour, Jeff.
Good. Pierre, merci beaucoup d'être là. C'est assez fou ce qui se passe présentement au Forum économique de Davos. J'ai adoré le discours de Mark Carney hier, mais là, Donald Trump est arrivé aujourd'hui en disant « Si le Canada existe, c'est à cause du marché américain. » Donald Trump, qui hier a fait une conférence tellement brouillon sur son bilan de la première année. Bref, qu'est-ce que tu retiens de tout ça à l'heure actuelle? Comment t'analyses ceci?
D'abord, c'est-tu vrai qu'on tient à cause des États-Unis?
Écoute, si un froid polaire qui arrive... au Canada et au Québec samedi. Il est déjà arrivé à Davos hier.
Oui.
Puisqu'en fait, le secrétaire au commerce avait mis la table assez directement. Monsieur Lutnick, hein, c'est un homme d'affaires et milliardaire d'ailleurs américain, qui a déclaré « Il y a un nouveau shérif en ville et il s'appelle Donald Trump. » Et donc, en gros, il a dit « Maintenant, c'est America first, not alone. » Donc, on va toujours être en premier, vous allez être en second, mais vous le serez soumis à nous. Donc forcément, ça a jeté un froid parce que la thématique de Davos, puis je ne l'invente pas, là, cette année, c'était améliorer l'état du monde. Donc clairement, il a pris une tangente qui était très différente et ça a très mal passé. Il y a des gens qui ont quitté la salle.
C'est fait huer aussi.
C'est fait huer également. Et parallèlement, ben, il y a Mark Carney qui a fait, selon beaucoup d'analystes, peut-être l'un des plus grands discours de l'histoire diplomatique canadienne, sans jamais citer les États-Unis, mais vraiment contre l'impérialisme et surtout... appelant les États de taille moyenne à collaborer ensemble dans un nouvel ordre mondial. Donc, c'est vraiment majeur ce qui s'est passé hier. Là, il y a même des personnes qui disent qu'on ne voit pas quand on change d'époque. C'est comme si hier, peut-être, on avait changé d'époque.
On changeait de livre directement, puis on en commençait un nouveau. Pour le discours, ben, on est capable de l'analyser au niveau politique. Au niveau économique, par exemple, est-ce que c'est un affront aux États-Unis directement et à Donald Trump, ou on surfait un peu sur la ligne, puis avec quelque chose d'un peu rassembleur malgré tout?
C'est un discours, comme je l'ai dit, je pense, qui est vraiment historique. Puis, il a usé de beaucoup de diplomatie, mais au final, le message va être reçu par Donald Trump comme étant un affront.
On se met tous ensemble pour lutter contre vos coupures, vos tarifs.
Absolument. Puis, il l'avait dit lorsqu'il a annoncé les premiers tarifs au printemps dernier. S'il y a une coalition qui se crée, je vais vous punir. L'autre message qu'envoie indirectement Mark Carney, qui est intéressant ici à Donald Trump, c'est qu'il lui a dit, ben, en même temps, tu as négocié avec nous des ententes économiques comme l'ACEUM, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, et tu ne veux même pas le respecter. Donc, même si on doit le renégocier cette année, tu ne seras pas plus de bonne foi. Donc, ça veut dire que Mark Carney prend le pari que le mal qui éventuellement naîtra de cet affront envers Donald Trump avec peut-être de nouveaux tarifs, peut-être des sanctions, d'autres choses, sera, on l'espère, moins grand que les nouvelles alliances qu'on va créer. On l'a vu avec la Chine la semaine passée, mais aussi avec l'Europe et d'autres partenaires à travers la planète.
Tu m'amènes à un endroit intéressant, justement, puis je voulais te poser cette question-là. Est-ce que c'est vrai que si les économies moyennes, parce que c'est comme ça que Mark Carney les a appelées hier, s'unissent ensemble, on va être capable de combattre les grands marchés comme les États-Unis?
Et c'est là où j'ai un bémol. C'est là où j'ai vraiment un bémol. C'est une excellente question. Parce que si on regarde les perspectives en Chine avec le déclin démographique et la capacité du marché à pouvoir accueillir de nouveaux biens qui viennent de partout dans le monde, dont le Canada, l'Europe qui a d'immenses problèmes d'endettement, de productivité, de désindustrialisation, etc., ça ne fonctionne pas. Puis historiquement, on a toujours dit la géographie, c'est l'histoire. Et on en a déjà parlé d'ailleurs, je pense, il y a deux mois ensemble ou un mois ensemble. Il y a aussi des choses que tu ne peux pas nécessairement exporter et qui prennent parfois peut-être des années, sinon, si tu veux réussir à te tourner.
On parlait de structure, par exemple, pour faire des ponts.
Exact. Non, c'est pas des choses que tu peux livrer demain, que tu livrais par la route dans le nord-est des États-Unis.
Puis on a eu des problématiques en pandémie aussi de livraison de certaines pièces qui a monopolisé, en fait, puis qui a même arrêté la construction de certains véhicules avec des technologies. Puis c'était des tout petites pièces, c'était des petites niaiseries.
Exactement. Donc, c'est pour ça que là, il y a un bémol. Après, il y a peut-être l'autre élément, et ça, c'est dont on ne parlait pas, c'est que Donald Trump, avec les tarifs, essaye de forcer les États à choisir avec qui faire affaire. Et en gros, il dit aux gens, c'est simple, il y a la Chine et la Russie qui sont nos ennemis, il y a nous, si vous voulez avoir accès au plus grand marché du monde, signez des ententes avec nous, même si elles sont un peu défavorables, ce sera mieux que rien du tout. Et donc, peut-être que aussi les tarifs, cette technique-là, parce qu'il sait que ça va impacter l'économie américaine, là, on annonce pour la première fois au premier trimestre un recul au niveau du PIB avant que ça remonte ensuite,
ouais.
Parce que c'est là que vraiment que l'impact des tarifs du printemps se matérialise, ben, potentiellement, il va aussi lever le pied de ce côté-là. Parce qu'il sait très bien qu'à long terme, ça ne fonctionnerait pas d'être en guerre contre la moitié de la planète.
Il pense avoir le monopole des décisions, le monopole, du moins le gros bâton, en fait, dans les négociations économiques. On en parle...
Il l'a.
Et c'est là. Est-ce qu'il va l'avoir encore longtemps? Ou il y a vraiment quelque chose qui peut faire changer la donne, dont cette coalition qui est en train de se créer au niveau économique?
Il n'y a pas de plus grand marché que le marché américain. Et malheureusement, ça, c'est une réalité qui fait que si on réussit à créer une coalition de tous les marchés sur la planète qui voudraient s'associer ensemble, peut-être qu'il y aurait la même grandeur de marché, mais est-ce que c'est les mêmes besoins actuels que ce que ces économies font? Parce que le principe de la mondialisation, c'est la spécialisation. C'est les gens vont créer des industries, des biens et services, là où ils ont un avantage concurrentiel pour le développer. Et malheureusement, la manière dont on a développé notre structure est beaucoup dépendante de l'économie américaine et pas nécessairement des autres partenaires avec qui on aimerait faire affaire. Donc, c'est extrêmement compliqué. Là où peut-être il y a aussi une lueur d'espoir, c'est que ben, jusqu'à ce que les choses changent éventuellement aux États-Unis, mais c'est des mandats de 4 ans pour être président et Trump quittera dans 3 ans. Donc, peut-être qu'il y aura une normalisation des relations.
Et maintenant, on met un petit bémol à ça. Puis on attend de voir ce qui va se passer. Espérons pas. La Chine a longtemps voulu dépasser les États-Unis au niveau économique. Un peu avant la pandémie, on était dans une courbe qui était progressive. Là, pour la Chine, on leur donnait un 7 ans, puis ils arrivaient ex aequo et tout ça. Il y a eu un ralentissement incroyable pendant la pandémie. Elle a été touchée. L'économie a rebaissé. On a pris du retard au niveau des années. Mais je me demandais si elle est encore un joueur qui colle au derrière des États-Unis, puis c'est peut-être pour ça que Donald Trump la déteste au niveau économique.
En fait, ce qui se passe avec la Chine, c'est qu'ils ont une vision assez extraordinaire dès le début des années 2000 pour créer le Made in China 2025, et qui est une politique en fait, qui va jusqu'en 2050, pour essayer de concurrencer la planète entière dans 8 domaines, dont les voitures électriques, l'aéronautique, les machines agricoles, etc. Et dès 2025, ils ont vraiment atteint cet objectif-là. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, la Chine est en avance dans beaucoup d'industries et pourrait d'ailleurs absolument détruire le marché américain, par exemple des véhicules électriques, parce qu'ils ont des véhicules 3 fois plus performants, 3 fois moins chers. Et c'est pour ça que l'entente de Mark Carney la semaine passée avec la Chine est majeure et c'est un autre affront aux États-Unis, parce que Trump avait poussé le Canada, les avait obligés à mettre 100% de tarifs sur les véhicules chinois parce que les Américains savent très bien que la technologie chinoise aujourd'hui est assez extraordinaire. Mmh. Et c'est là où je vous le dis que c'est si important ce qui se passe actuellement avec les États-Unis et ce que les tarifs essayent de faire. C'est que je pense sincèrement que Donald Trump essaye vraiment d'affaiblir la Chine avec tout ce qu'il fait et forcer les gens à faire affaire avec eux. Parce qu'au final, si les Chinois réussissent à développer des technologies aussi bonnes, mais qu'ils n'ont pas de marché sur lesquels les vendre, ben ça ne les avancera pas plus.
C'est comme ça qu'on fait des liens aussi avec l'intervention au Venezuela, qui s'attaquait, à la Russie et à la Chine aussi.
Exactement.
Tout semble être dans la mire de Donald Trump pour être en compétition directe avec la Chine.
Pour conclure, c'est un excellent point. Le Venezuela plus l'Iran, c'est 60% du pétrole qui est nécessaire à l'économie quotidienne en Chine.
Pierre Graff, analyste économique, aussi président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce de Québec. En terminant, je veux que tu mettes ton chapeau de président des jeunes chambres de commerce du Québec. À quoi s'attendre à Québec? Est-ce qu'on s'attend à une période très trouble, très dure avec ce qui se passe présentement dans le monde entier?
On sait que l'économie québécoise, canadienne a été résiliente. On l'a vu avec les chiffres, même si ça a été difficile. Ça, on a été résilient. On a quand même évité vraiment une forte récession. Et quelque part aussi, les entreprises n'ont pas eu le choix à un moment d'apprendre à gérer et à vivre avec l'incertitude.
Mm-hmm.
Donc oui, il y aura une croissance modeste cette année. mais jusqu'à nouvel ordre, ou du moins jusqu'à ce que Trump impose de nouveaux tarifs ou efface complètement l'entente Canada-États-Unis-Mexique, on peut s'attendre à ce que ça évolue. On a vu d'ailleurs un rebond des intentions entrepreneuriales, ce qui est un super bon signe, je dirais, qu'il y a dans le marché. Et on a besoin de ça, on a besoin des jeunes entrepreneurs, on a besoin de l'innovation, on a besoin de nos entreprises. Et j'espère vraiment qu'on aura une année 2026 extraordinaire. Au final, c'est toute la société québécoise qui en bénéficiera.
Pierre, merci beaucoup de ta participation à l'émission On en jase aujourd'hui, puis on se reparle Jean. Bientôt. Salut Pierre.
Merci.
On va de ce pas rejoindre Mathias Turcotte, qui était une annonce importante en termes de logement. Mathias, comment vas-tu?
Ça va très bien, Jeff.
Cool. Mathias, c'est une annonce importante avec la ministre Proulx, avec notamment Geneviève Guilbeault, des gens aussi du gouvernement fédéral. Qu'est-ce qu'on a annoncé aujourd'hui à Québec?
Oui, on avait eu vent ce matin déjà. Là, il y avait eu quelques idées de ce qui allait être annoncé en matière de logement. On parlait d'un milliard en logement et en infrastructure de logement. Concrètement, ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est un milliard d'investissements de la part du gouvernement fédéral pour les 10 prochaines années directement en infrastructure pour le logement. Donc, on parle surtout de tout ce qui est aqueduc et égout, traitement des eaux pour permettre la construction de logements. Donc, ça, c'est de l'argent qui va être pris directement du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, donc le FCIL. Ce fonds-là qui a été créé en 2024, puis on avait eu du mal à s'entendre du côté du Québec avec le gouvernement fédéral. Là, on y est finalement arrivé. C'est un milliard que le gouvernement fédéral va investir. Très bonne nouvelle de ce côté-là. En même temps que ça, on a également annoncé une collaboration entre Maison Canada, qui est le nouveau
programme fédéral.
Exactement, fédéral. 13 milliards, l'enveloppe globale pour le pays. On va avoir une collaboration avec la province de Québec. Ça va être quoi cette collaboration-là? En gros, les deux parties vont s'asseoir régulièrement pour évaluer les demandes de projets qui ont lieu au Québec. Parce que le gouvernement fédéral, ailleurs au Canada, peut directement signer des ententes avec les villes. Par exemple, le gouvernement fédéral canadien pourrait signer une entente pour un logement avec la municipalité de Toronto. Sauf qu'au Québec, comment que la réglementation est faite avec la Société d'habitation du Québec, le fédéral n'a pas le choix d'avoir l'appui, d'avoir la collaboration du gouvernement provincial. Donc là, on va mettre une table pour justement faciliter et permettre au gouvernement fédéral par Maison Canada d'investir en logement social et abordable.
Mathias, en terminant, ça va amener combien de logements à Québec selon les gens et selon Bruno Marchand qui était présent?
Ça, malheureusement, puis on l'a posé à plusieurs questions, à plusieurs reprises cette question-là, on n'a pas de chiffres précis. On a parlé à quelques représentants du fédéral concernant ça. Ça va amener combien de logements concrètement? Puis on dit qu'on veut pas donner de chiffres parce qu'on veut pas se limiter. Ça va dépendre des demandes, ça va dépendre des investissements privés, ça va dépendre des investissements provinciaux. Mais une chose est sûre, ce qu'on dit, c'est le maximum le plus possible.
Mathias Turcotte qui est sur le terrain pour Boulevard 102. On le rappelle, vous pouvez le joindre à l'adresse citoyen-commercial-blvd.fm. Il va creuser les dossiers épineux que vous allez lui envoyer. Merci beaucoup. Et demain, tu co-animes l'émission On en jase parce que Pascal CV est absente. Et tu vas nous faire justement un bon dossier sur les logements. On a créé beaucoup de logements à Québec, mais pas nécessairement des logements abordables, je crois. Hein?
Non, exactement. Encore une hausse de 6,7% dans la dernière année. Qu'est-ce qui explique ça? On en jase demain midi.
Excellent. Ça tombe bien. Tu vas être à l'émission On en jase en plus. Salut Mathias. Continue ton excellent travail.
Salut Jeff.
Salut Mathias. Mathias Turcotte sur le terrain, je le rappelle, citoyen en commercial blvd.fm pour le faire travailler. Il faut le motiver.
Pour le faire travailler.
Sur des dossiers intéressants, sur des dossiers qui vont être exclusifs à Boulevard.
Je trouve ça incroyable comment on présente ça, parce que moi, tu sais, je suis une grande fan des Spotted de l'information et tout ça, les pages Spotted des municipalités. Mais Mathias, c'est notre Spotted. Vous avez n'importe quoi en tête.
Exactement.
Vous vivez une injustice, vous avez une plainte, vous avez une remarque, vous avez vu quelque chose, vous écrivez à Mathias.
Oui.
Citoyen.
Citoyen à commercial blvd.fm.
Et directement là, c'est pris en charge par nous. Vous n'avez pas à attendre qu'on voit vos publications sur Facebook, là.
Non. On le prend en charge et on monte le dossier pour vous, chers auditeurs, parce que vous êtes précieux à Boulevard 101.
On a...